Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle série d'émissions. Par les temps qui courent, écoute les artistes pendant une heure tous les soirs. Et ce soir, nous sommes absolument ravis de recevoir Antonio Lobo Antunes.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent,
Marie Richeux,
ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
C'est étrange, même s'il ne disait rien, cela continuait d'avoir lieu. C'est une phrase attribuée au personnage de la fille et sœur au milieu de votre roman juste paru en français, Antonio Lobo Antunes. C'est ainsi qu'elle qualifie le silence des hommes, revenu mais pas vraiment, de la guerre d'indépendance d'Angola. Un silence peuplé et bruyant. Il ne disait rien et cela continuait d'avoir lieu. Dans votre texte, en effet, le passé continue d'avoir lieu dans le présent, l'extrême solitude dans une réunion de famille, l'amour incongru au beau milieu du déchaînement de la haine. La mort continue d'avoir lieu dans le vivant et le langage en est une manifestation éloquente. Un homme portugais ramène de la guerre un petit garçon angolais. Il l'élève malgré les crimes et l'impossible oubli. Il se partage la parole et les pensées de chapitre en chapitre, attendant le jour et le moment pour tuer le cochon, tandis qu'une femme meurt presque sans le savoir dans une chambre d'hôpital. Mais c'est une tragédie et on sait dès l'ouverture de votre roman à quels autres crimes on sera tenu de faire face. Bonsoir à vous, Antonio Lobo Antunes. Jusqu'à ce que les pierres deviennent plus douces que l'eau est un livre traduit vers le français par Dominique Nédélec et publié aux éditions Bourgois. Je parlais de l'ouverture du roman, on va l'entendre être lu.
Ma mère était leur cousine germaine. Je veux dire la cousine germaine du père. Pas de son fils nègre, qui n'a jamais été son fils, même s'il le traitait comme son fils, et que le nègre le traitait comme son père. Le cousin de ma mère l'a ramené de la guerre en Angola. Il avait 5 ou 6 ans. Moi, je n'étais pas encore né, je suis arrivé plus tard, et je me rappelle que mon beau-père m'a répondu, quand je lui ai demandé pour quelle raison le cousin était revenu avec un enfant peut-être plus heureux là-bas, dans la cambrousse où il l'avait trouvé, que pour ainsi dire, tous les soldats rapportaient des souvenirs, un masque, une statuette en bois, une oreille dans un bocal de formol, un gamin, un moignon, des silences au milieu des conversations pendant lesquelles il partait très loin tout en restant là, et au loin j'avais comme dans l'idée qu'on entendait presque des tirs et des cris. Mon beau-père n'a pas été envoyé en Afrique à cause de son pied beau, mais des voisins du village ici y sont allés eux. Et ils étaient bien différents de lui. Fuyants, brutaux, quasiment tous bizarres à en croire leurs femmes que j'entendais se plaindre, assis sur une pierre, au milieu du potager, à regarder je ne sais quoi ou à écouter les feuillages d'arbres dont j'ignorais le nom. Une fois, l'un d'entre eux, au lieu d'éloigner son chien avec son soulier, lui a tranché la tête d'un coup de sarcloir. « Fous-moi la paix !» Et il est resté là, à côté du cadavre de la bestiole, sans plus s'en soucier, à fumer. Arrivé au bout de sa cigarette, il m'a donné l'impression de fumer ses doigts pendant une éternité. Sa nièce a posé de quoi déjeuner à côté de lui, mais il n'a pas touché à la gamelle. C'était des gens de sa famille, la nuit, qui venaient travailler ses terres en cachette pendant que le type chez lui, à s'imbiber, ou dans une rage muette, contre je ne sais quel ennemi, certains ont fini au fond du puits ou pendus à la poutre du poulailler à se balancer doucement, un pied chaussé, l'autre déchaussé, et les volailles attaquant la godasse à grands coups de bec. Depuis que ma mère est décédée, c'est moi qui prends soin du caveau de son cousin, dans le petit cimetière niché au pied de la colline qui annonce la montagne. avec tous ces pins qui chuchotent sur la pente, et des oiseaux, et des arbustes au soleil, si paisibles, si doux qu'on en arrive à envier les défunts. C'est là qu'ils sont l'un et l'autre, le père blanc et le fils nègre, en plus de deux ou trois parents plus anciens dont j'ignore qui ils pouvaient bien être. J'espère qu'ils entendent les pins et les arbustes eux aussi, ou au moins le vent la nuit qui ratisse et ratisse. De ceux qui ne sont plus que des photos pas très nettes. À quelle époque ont-ils vécu? Dans des cadres cassés, suspendus à un clou, de guingois sur les murs, de vieilles créatures à qui plus personne ne prête attention. Si ça se trouve, c'est eux que j'entends la nuit se plaignant de ne pouvoir devenir terre. De la même manière que plus personne ne se rappelle ce qui s'est passé il y a 10 ans au moment de la tue cochon, quand le fils nègre a assassiné son père blanc, avec le couteau encore couvert du sang de l'animal, pas un autre couteau, le même couteau. Et le même couteau, il m'a semblé, que pour lui, un autre couteau, très ancien. J'aurais juré que dans sa tête, un autre couteau très ancien. Le fils nègre criant à son père blanc, « Vous vous rappelez ce que vous avez fait? Vous vous rappelez ce que vous avez fait ?» Essayant de lui ligoter les jambes avec la corde qui avait servi à ligoter le cochon, jusqu'à ce que les hommes, dans un tourbillon de bourrades et de coups de pied, le repoussent, le saisissent, l'allongent à terre, lui brisent les os, lui écrasent la nuque avec la hache, lui transpercent le cou, la poitrine, la bouche, le ventre, le laissent à côté de son père blanc sous le porc, presque vidé de son sang, qui aura gémi jusqu'à ce que la dernière goutte tombe dans le baquet, tous les trois alors se retrouvant seuls dans le cellier, tandis que Mars, tout à coup, faisait claquer la fenêtre ouverte.
Antonio Lobo Antunes, c'est l'ouverture de ce roman jusqu'à ce que les pierres deviennent plus douces que l'eau. Et la dernière phrase de cette ouverture est aussi la dernière phrase du roman, qui forme donc une sorte de cercle. Est-ce que c'est une ouverture qui a été écrite une fois que tout le roman avait fini d'être écrit?
Tout le roman? J'ai pas pensé à ça. Ça m'est jamais passé par la tête. Ça a à voir avec qu'est-ce que c'est l'écriture, et ça nous mènera trop loin. Mais c'est pas des délibérations rationnelles. Avec les délibérations rationnelles que vous travaillez, le problème c'est de comment écrire l'indisible, parce que écrire, c'est beaucoup de choses, mais c'est entre autres une sorte de délire contrôlé. Donc il vous faut organiser ce délire d'une forme qui soit un tout petit peu rationnelle pour que le lecteur puisse comprendre et entendre et vivre la même chose que vous. Donc un livre, et je m'excuse de mon accent et de mon français qui est très pauvre, mais c'est vrai, très pauvre. Qu'est-ce que vous essayez de faire avec un livre? Quel est le but? Quoi poursuivez-vous? Qu'est-ce que vous voulez dire ou montrer? Je crois que la plupart des fois, vous ne pouvez pas penser à un public. Jamais. Car sinon, vous commencez à vous perdre. Vous commencez à essayer de séduire le lecteur. Et c'est la pire chose que, une des pires choses qu'un écrivain peut faire, c'est d'essayer de séduire le lecteur. Car, en général, les hommes sont trop vulgaires quand ils tentent d'essayer de séduire. Donc la seule forme de communiquer est d'être fidèle et sincère envers vous-même. Être fidèle, c'est très difficile. À qui que ce soit. À une femme, à une idée, à un club de foot, c'est difficile d'être...
Et à soi-même?
D'être fidèle. À soi-même, peut-être qu'on n'est jamais, qu'on ne l'est jamais, je sais pas. Je sais pas, j'apporte aucune vérité. Tout ce que je fais, c'est écrire des livres. Tout ce que je fais, qui puisse intéresser aux autres. Et c'est très curieux, mais les gens ont été toujours très généreux envers moi. Question livre. C'était étrange. Hein. J'avais jamais. Au début, je me posais pas beaucoup de questions. J'écrivais. Et puis il a commencé à publier, puis on a commencé les traditions un peu partout. Et finalement, ici en France, j'ai un traducteur qui est très très bon. Très très bon. J'en ai eu 4 ou 5 avant celui-ci. Traduire, c'est un travail impossible. Impossible. D'être fidèle à un texte, c'est impossible. C'est une sorte de photo en noir et blanc dans un tableau. Il y a beaucoup de choses qui se perdent.
Quand vous avez entendu Romain de Bec-de-Lièvre lire l'ouverture de votre texte, vous l'avez reconnu ?
Je ne l'ai pas lu. J'ai lu pas une ligne. Je ne veux pas. Parce que c'est dans notre livre. Et si je l'ai publié, c'est parce que j'en avais assez de ce livre-là. Je voulais m'en débarrasser. Donc, je ne lis pas les critiques, je ne lis pas les interviews, je ne lis... je lis rien. Rien qui puisse concerner soit mon travail, soit moi-même. Je ne lis pas. Mais Dominique a fait un très bon travail. La première fois que je l'ai vu, il rassemble tellement... Vous le connaissez ?
J'ai vu son visage tout à l'heure sur un écran.
Il rassemble tellement Art Garfunkel, portrait caché de Garfunkel. Et je pensais... Come on, Art, parce que je connais. You're coming back. Je suis français. Je pensais qu'il se jouait de moi. Mais il arrive à... Il parle un portugais incroyablement beau. Il a une très belle voix. Et je suis sensible aux voix. Et son français est très très beau. Son portugais. Son français, je crois aussi. Je ne peux pas évaluer. Et quand j'ai vu Garfunkel en parlant portugais, parfait. C'était étrange pour moi. Car je connaissais son Paul Simon, parce que... Il y avait un livre, Morée du Fent, ou que tu donnes, je ne sais pas. Il y avait des vers de Paul Simon. Et Paul Simon m'a invité pour dîner chez lui. C'était un. Il habitait dans une maison très connue. Très, très connue. Et il y avait. C'était très étrange. La première fois, soudain j'ai vu. J'avais 30 ans, et soudain j'ai vu. Des chanteurs, des acteurs. Écoute, parce qu'il y avait des vers pour ça dans le livre. Parce que, écoute, je disais à Paul, ces gens-là. Ah, tu sais, New York est une ville de 50 personnes, on se connaît tous. C'est des gens très intéressants. Il y avait un homme, Robert De Niro, incroyablement séducteur. Hein.
Avec
qui était
vous?
En train d'essayer de séduire une actrice qui était là aussi.
Ah, je croyais qu'il essayait de vous séduire, vous. Antonio Lobo Antunes.
Non, non, il était. Personne ne me connaissait. Aux États-Unis ni ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je parlais de ça.
Moi non plus.
Bon, on était à Dominique Nedlec. Et j'ai vu un échantillon de son travail. C'était magnifique. Le français est une langue très difficile.
Que vous aimez parler ?
Le français. Je ne sais pas, j'ai une certaine facilité pour les langues. Je peux parler 8 ou 10, mieux que français. Je ne sais pas. Puis chez mes parents, ils parlaient diverses langues. Mais son travail est vraiment magnifique. Magnifique. C'est peut-être, de tous les traducteurs que je connais, un petit peu, le seul qui m'a... C'est un très très bon traducteur. Traduire, c'est... J'ai essayé de traduire. La poésie latine, par exemple, qui m'intéresse. Par exemple, j'ai essayé de traduire en français la traduction portugaise, deux vers au vide. Au vide. C'est un poète que j'ai une admiration très très grande. Il y a des larmes dans la nature des choses et la certitude de l'éphémère nous touche le cœur. Ça, c'est une traduction faite ici. Ça, c'est très difficile à donner. Comment dire ça? Dit en latin, c'est une force et une beauté incroyable. Les mots sont agencés d'une façon incroyable, mon bel. Et qu'on n'arrive pas à donner la richesse et la beauté, et la sensualité, qui pour moi est très importante, une langue. Le latin est très sensuel. L'italien aussi.
Et le portugais?
Je ne sais pas. Je ne parle pas beaucoup de portugais parce que quand je suis chez moi, je travaille. Et je ne suis pas très bavard. Mais j'aime le son de la langue, l'odeur de la langue. Le français, c'est beau parler par le français. Parler pour les étrangers, j'aime pas. Comprenez? C'est compliqué pour moi de... Ou avec l'accent allemand...
Mais bon, ça ne vous empêche pas de vous moquer de moi. Et de faire des plaisanteries.
Non, je ne m'ai pas moqué. Je ne suis pas moqué, j'ai parlé gentiment, quoi. C'était une gentillesse.
C'était une adorable gentillesse.
Non. Menteur. J'aime pas qu'on mente. Je mente
moi non
pas
plus.
Aux gens.
Moi non plus.
Et dans l'écriture, par exemple, quand vous montez, le lecteur comprend ça. Quand il essaie de se mettre son... Quand il essaie de nous séduire, c'est horrible quand on essaie de nous séduire. Les gens deviennent tellement visqueux. Et la littérature, c'est pas... C'est une chose trop sérieuse pour moi et pour, je crois, pour tout le monde. Qui vit ça ou qui aime ça.
Vous avez publié ce texte parce que vous en aviez assez, que vous vouliez vous en débarrasser.
Oui. Parfois, je me demandais quand est-ce qu'un livre est fini. Un livre est fini quand vous sentez qu'il en a assez de vous et que vous avez assez de lui. Ça a été un mariage très agréable pendant le temps que cela a duré, car vous couchez avec lui, le matin, il est là tout le temps. Il vous habite tout le temps, même si vous pensez à autre chose. Il vous occupe, il vous... Parfois, il est tyrannique. Mais bon, dans l'amour, tout le monde est tyrannique. C'est curieux parce que je crois que je le regarde comme un être vivant. Mais il est différent de moi, donc. On travaille tous les deux jusqu'à ce qu'ils disent c'est fini. Parfois, on a de la peine de se séparer. Et puis, il est publié, il est fini pour vous. Pour moi, c'est comme ça. Et heureusement, j'ai eu beaucoup de chance avec les éditeurs, les traducteurs, tous ces prix, toutes ces traditions. C'est très étrange. La meilleure chose, c'est de ne pas... Ne pensez pas à ça.
Est-ce que c'est aussi le livre qui dit quand ça commence?
Quand ça commence, un livre?
C'est lui ou c'est vous qui le dites?
Bon, vous vous asseyez, vous commencez à écrire. Vous savez, c'est comme une grossesse ou une affaire amoureuse. Vous savez pas très bien quand ça a commencé. Quand est-ce que j'ai commencé à l'aimer? Quand je l'ai vu, avant de l'avoir? Ou après, mais combien de temps? Vous savez pas. Les temps se mélangent. Les sentiments se mélangent. Les intensités se mélangent. Le contrôle du temps est complètement différent. Un livre, c'est ça, une sorte de... Évidemment que c'est du travail. C'est surtout du travail. Et puis, les choses commencent à se transformer, à changer, à gagner des couleurs différentes. C'est comme ça. Ça n'a aucun mérite spécial.
Bien sûr, c'est un livre qui parle beaucoup de la guerre, qui parle de ce que c'est que d'avoir un fils.
Dans celui-là.
D'avoir un père. Mais moi, j'ai trouvé que c'était aussi un livre sur l'amour.
Vous pensez ça ? J'ai rien à dire là-dessus. Vous avez une supériorité sur moi. Vous l'avez lu. Moi, je l'ai seulement écrit. Donc, vous le voyez d'une façon tout à fait différente. Et je suis sûr que plus juste la mienne. Mais qu'est-ce que c'est que la justice ? Il ne faut pas rationaliser les impulses. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Impulse. Il ne faut pas rationaliser les émotions. Il faut pas. Car rationnellement, on ne comprend rien à rien.
Ça, c'est sûr. Écrire, ça ne vous aide pas du tout à comprendre.
Oui, l'idéal, c'est de... Ça serait de vivre son tête au sens où la tête rationalise et essaie d'organiser les émotions. Tout au moins pour ne pas... Nous avons très peur. Nous avons peur de la mort. Les gens disent qu'ils ont peur de la mort. Ce que j'ai toujours vu, c'est que les gens avaient peur de la vie. Et la peur de la mort est forcément très liée à la peur de la vie. On a peur de tout. On a peur des week-ends, on a peur de tout. On a peur des gens qui nous donnent des surprises, qui nous surprennent. Par exemple, votre président de la République, c'est complètement normal qu'il ait été élu. Pas pour des raisons rationnelles, ni même pour des raisons politiques, pour des raisons purement émotionnelles.
C'est-à-dire ?
Complètement compréhensible. On avait besoin de ça après l'autre avant lui. C'était évident que ça allait arriver, une chose comme ça. Comme pour moi, comme c'est évident, celui-là, il va finir son grand couloir, sa présidence. Ça, c'est évident. Mais la France a pas mal souffert ces derniers temps. On ne peut pas parler de la France, on ne peut pas parler du Portugal, ça n'existe pas. C'est des concepts abstraits, mais ça va être difficile pour les gens qui vivent ici. Vous voyez ce qui se passe à Venezuela. C'était évident que ça allait arriver. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est très très compliqué. Écrire, c'est comme ça. C'est très risqué, mais qui ne prend pas de risque meurt.
C'est très risqué d'écrire pour vous ?
Au sens où on peut me ôter la vie, je pense que non. Mais, vous savez, j'ai commencé à écrire très tôt. À 4 ans, moi et nous sommes 6 frères. Seulement des garçons. Bon, il fallait un peu comprendre comment c'était le Portugal quand je suis né. Je suis né dans les années 40, dans une famille très privilégiée, aristocratique, blablabla. Ce qui est très mauvais, très bon, en même temps. A des avantages indéniables et des difficultés compliquées. Donc, c'est ma mère qui m'a appris à lire quand j'avais 4 ans. J'étais l'aîné, donc c'est ce qui était important dans mon statut social où je suis né, j'étais être le fils aîné. Sans mélanger. Grand-mère allemande, grand-père brésilien, etc. À Lisbonne, au temps de la dictature féroce de Salazar, par exemple, je me souviens qu'un jour à table, un de mes frères a demandé à mon père, à notre père, un mot qu'il avait écouté, qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Et mon père a répondu, tais-toi et mange. Car vous ne pouvez pas utiliser le mot démocratie. C'était une dictature féroce. On ne savait jamais qui était l'indicateur de la police. C'était votre femme, votre mari, vos amis, vous ne saviez pas. Après la Révolution, ils ont donné les processus à la police politique aux gens. J'étais très ami d'un écrivain qui s'appelait José Cardoso Pio. J'ai traduit en français. C'est un bon écrivain. Bon. Et le jour après la Révolution, il m'a appelé, viens chez moi. Un homme qui avait 20 ou 30 ans de plus que moi. Que... Je suis arrivé chez lui, il pleurait. C'est un homme très dur. Il avait fait la prison, etc. Et c'est la seule fois que je l'ai vu pleurer. Un homme dur qui a une vie difficile, etc. Parce que l'indicateur de la police politique, c'était son meilleur ami. Le parrain de sa fille, il était le parrain de la fille de l'autre. Et il m'a montré des lettres de, lui, de cette amie à la police politique en disant « En ce qui concerne Jacques Douchepi, je ne sais pas pour le moment, mais je saurai demain et je vous le dirai, etc. » On voyait ça tout le temps. Par exemple, on avait des bonnes. Quand on mangeait, il y avait des bonnes qui servaient. Hein. On ne pouvait pas parler politique. Et même avec, plus tard j'ai appris, avec les frères, c'était compliqué. On avait peur de la police. Il y avait des camps de concentration, à Cap-Vert, en Angola, etc. Beaucoup, beaucoup, pas mal de monde est mort dans les camps de concentration. Et donc on parlait, on ne pouvait pas parler. Et ça fut très important pour moi, côté écriture. Ça m'a obligé à châtier la langue, vous comprenez? Mais en même temps, évidemment que c'était atroce. Un de mes frères, Miguel, et j'appartenais à une famille très privilégiée, était président de l'association d'étudiants de droit. Et un jour, nous sommes allés à dîner chez un de mes oncles, et en revenant à la maison, il y était Manuel, qui était le plus jeune de mes frères, qui avait 5 ou 6 ans, avec un monsieur chez nous. Et c'était un indicateur de la police politique. Un indicateur, un agent. Un autre 20, ils ont emmené mon frère, qui était le président de l'association de droit, qui avait 21 ans. Il nous racontait ça a posteriori. On ne peut pas le battre, parce que c'était une famille importante, on ne peut pas le torturer. Donc il est arrivé à la police politique, il lui a dit, essayez-vous, on va vous écoutez dans un moment. Il s'est assis. Personne ne l'appelait. 2 heures après, il a eu envie de faire pipi, il s'est levé. Attendez, on va recevoir tout de suite. Il est resté comme ça plus de 30 heures. En faisant pipi et caca, mangeons pas, en buvant pas, on va vous donner tout, vous êtes reçu tout, dans un petit moment. Bon, quand on reçoit quelqu'un, après un jeune homme de 20 ans, vie protégée, blablabla. Et on maintient dans une chaise de la police pendant 30 heures, c'est très très violent. C'est pas nécessaire de le battre. Donc ça a commencé comme ça. Puis, on lui a fait une chose qui est impossible à concevoir. Dans une famille si importante que la mienne, il a été mobilisé, non comme officier, comme soldat, dans une compagnie disciplinaire. À la Guinée, qui était le front le plus compliqué de la guerre. Et là, soudain, c'est la révolution. Mais, vous voyez la violence. Donc, j'ai grandi avec tous ces interdits. Les menaces de la prison, car les étudiants se révoltaient. Il y avait beaucoup d'étudiants en prison. Les associations d'étudiants étaient très persécutées. On savait plus ou moins ce qui se passait, mais la police chargeait sur les étudiants, et, tuait des gens, plusieurs étudiants ont été tués. Pompon. Donc c'était très 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 violent. C'était un peu comme en mai 68, car c'était ça, c'est dans les années 60. Un peu la même chose. Très, très violent. D'ailleurs, quand la dictature, c'est la même chose, termina en 74, soudain, Lisbonne, il y avait Sartre, bien sûr, pour dire ses conneries habituelles, Beauvoir, enfin, tous les étudiants, les grandes figures de mai 68, tout le monde était là-bas. C'était la pagaille. Et les Portugais, très confondus, très nerveux, avec beaucoup de peur, on ne savait pas ce qui allait arriver. C'était une expérience très dure. J'ai eu une réunion avec Sartre, il a essayé de nous apprendre la révolution. Lui, qui était, c'était un lâche. Il n'a jamais couru aucun danger. Le rôle qu'il a joué pendant l'occupation est très pour parler de ça. Elle était là. Et en plus, j'aimais beaucoup lire ses livres, j'avais 16 ans. Mais son visage était atroce. Il était laid comme un crapaud, comme ça. Mais c'était la peau qui était visqueuse. C'est très étrange. Et la voix était... Tout en lui était atroce. Et il nous expliqua comment on devait faire la révolution. Comment on faisait tomber un régime de dictature qui a duré 48 ans et qui avait fini là en ce moment. Il savait tout. Pourquoi je parlais de ça, hein?
Je sais pas, moi je vous écoute, Antonio Lobo Antunes. Bah peut-être parce que vous teniez à dire que.
J'ai commencé à faire des associations bah, libres, ouais. Comme si j'écrivais. Et...
C'est ça. Vous commenciez à dire pourquoi est-ce que votre langage, votre écriture, elle s'est forgée là, à 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et peut-être la manière dont la violence aussi existe dans votre écriture.
Vous avez un immense avantage sur moi. Vous avez lu, moi j'ai seulement écrit. Je ne sais pas. Je sais que le livre est fini quand. Que vous sentez qu'il ne veut pas, plus de correction, qu'il en a assez. Il y a l'impression que le livre est comme moi, quand une femme ou un homme que vous ne voulez pas, hein, commence à essayer de vous toucher, d'éluder, de vous éloigner, et il continue à virer la main. Je pense que le livre est sans ça. Que mes mains deviennent horribles. Atroces. Il y a des caresses atroces, parfois, non? Quand j'étais enfant, j'étais très blond, les yeux très bleus, tout ça. Toutes les amies de mes grands-mères, c'était horrible. J'avais envie de m'enfuir. Je voyais ces bouches immenses qui s'approchaient de moi. Je pensais qu'elles allaient mal. Donc, je pense que le livre est sans comme ça.
Comment il est arrivé ce livre-là, vous vous en souvenez? Par quelle image? Par ça, quel mot?
Ça, c'est comme l'amour. Quand vous essayez de comprendre ça, il y est déjà. Il est arrivé sans que vous vous rendez compte. Ça commence, vous souvenez, vous sentez que la couleur de l'air a changé un peu. Comme quand on tombe amoureux. Et le monde commence à s'organiser d'une autre façon. C'est très difficile de parler des raisonnements, faire des raisonnements logiques, logico-discursifs, car ça n'a rien à voir avec la logique. C'est la logique des émotions, et on ne peut pas rationaliser la logique des émotions.
Mais on peut les décrire.
On peut essayer de les écrire. On peut essayer de les structurer et d'en faire un livre. Écoutez, c'est comme... écrire est une sorte de désir contrôlé. Ce qui est un paradoxe. Mais c'est comme ça. Pour moi, je veux dire. Évidemment que si j'étais... C'est une chose que j'ai jamais aimé dans les écrivains français, c'est la rationalisation. Et je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas de grands écrivains comme les Américains, etc. Et bien sûr, quand ils cessent de rationaliser, ils ont des génies comme Céline, comme... Si je devais choisir un seul écrivain... serait Saint-Simon, français, ou Nerval. Je n'avais pas lu Aurélien, le petit roman qu'il a écrit. Oui?
Non.
Lisez. C'est magnifique. Un homme qui va se suicider et qui laisse comme billet d'adieu à sa tante avec laquelle il vivait en disant « Ne m'attends pas ce soir, car la nuit sera noire et blanche. » Il mérite tout. Un très grand poète, et ce roman est magnifique. Il était complètement fou, bien sûr. Bien sûr.
Pourquoi vous dites bien sûr?
Parce que demain appartient au fou d'aujourd'hui. Regardez, Villon, ou Baudelaire, ou... je parle seulement des Français, c'est plus simple. C'est fou, non? Ça rentre, ou même la France a un poète que je trouve superbe, Guillaume d'Aquitanie, 11e siècle. qui est un poème qui commence, je ferai un poème de pour rien. C'est extraordinaire, il y a la modernité de ça. Ou Apollinaire. Vous n'avez pas d'excuse pour ne pas être fou. Comme disait le peintre, faisons quelque chose qu'on dise de nous que nous étions fous. Et puis, il faut rationaliser la folie. Quand je parle folie, je dis le mot dans le sens grec du mot. Pas dans le sens...
psychiatrique.
Oui. Pas dans le sens logique, par exemple, maintenant. J'ai été médecin, j'étais psychiatre. Oh. On a tellement peur, nous avons tellement peur de la différence, ce qui est différente. Une très grande peur. Je travaillais dans un hôpital où mon père avait travaillé. Et parfois, ils nous emmenaient là, au fond. Il y avait là, on était interné, je me souviendrai toujours de lui, un monsieur qui s'appelait Monsieur Anatole, on disait en français, Monsieur Anatole. C'était un graveur français qui avait eu. Il avait eu une attaque, avait attaqué des gens dans la rue, hein, il était interné. C'était ce que les médecins appellent un schizophrénique. Et mon père voulait que je connaisse. Il faisait des pontures là-bas, etc. Il est mort à l'hôpital. Et mon père voulait que je connaisse parce qu'il admirait beaucoup ce monsieur. Il était là, habillé comme tous les malades à cette époque. Un uniforme gris l'été, un uniforme grenat l'hiver. Et ils ont commencé à parler, mon père et lui, à bavarder. Et mon père lui a demandé, vous avez des enfants, monsieur Anatole? Et monsieur Anatole se sentit très insulté parce qu'il fait un visage comme ça. Il a dit à mon père, non monsieur, je ne fabrique pas de cadavres. Et puis, en me rendant compte de l'immense créativité de ces gens-là, je me demandais comment me changer moi-même pour devenir à moitié fou, comme ils disent, c'est-à-dire un fou, c'est quelqu'un qui ne contrôle pas les impulsions, etc., etc. Et en même temps suffisamment rationnel pour donner un ordre de lire. Un bon écrivain, c'est celui qui donne un ordre de lire, il me semble. Qui ordonne le délire.
Et parfois, vous avez peur du délire quand vous écrivez?
Non, j'ai peur de faire des choses mal faites. J'ai peur de faire des mauvais livres. J'ai peur d'être Gilbert Cesbron. J'ai dit un nom comme ça. Hein. Mais quand j'allais dans la maison d'édition, il y avait toujours énormément de manuscrits. Il suffit de lire. Il y avait un très grand éditeur américain qui, quand il recevait un livre, il lisait seulement le premier paragraphe et la dernière ligne. Et ça suffit, il avait raison. Je parle de Maxwell Perkins, bien sûr, qui a été l'éditeur de Hemingway, de Scott Fitchell, de Thomas, etc., etc., etc. Il les a tous découverts. Il avait une compréhension organique des textes, de l'écriture, etc. Un homme très rare, très grand éditeur. Qui encore. Il y a beaucoup de monde aux États-Unis, notamment à New York. Quand on leur demande qu'est-ce que tu veux, je veux être Maxwell Perkins. C'était un génie d'édition. Et j'ai la chance d'être. Je ne suis jamais sorti de Christian Brougois parce que c'était Christian Brougois. Je pensais quel éditeur je vais choisir, etc. Et Nabokov m'a dit il faut que tu ailles chez Brougois. C'est vraiment un très grand éditeur. On est devenus des amis merveilleux et ni lui ni moi, nous n'avons pas de caractère facile.
Vous avez un caractère difficile?
C'est pas à moi de juger. Je suis pas en train d'être difficile, non?
Non.
Mais si vous voulez une interview, je vous dis non. Vous demandez ce que vous voulez, je réponds ce qui me passe par la tête. C'est bien.
C'est bien vu.
Et je respecte votre liberté, vous respectez la mienne, et donc ça marche. Mmh. Comme dans un mariage. Sinon, comment ça s'ennuyer? C'est la chose la plus triste du monde, c'est s'ennuyer avec quelqu'un d'autre.
Vous parliez de quoi avec Christian Bourgois?
Bon, des choses dont on peut pas, dont je peux pas parler ici, et des choses dont je peux parler ici. On parlait livres, elle avait connu beaucoup de monde, des écrivains. Et ça m'a fait beaucoup souffrir, sa maladie, sa mort. C'était un frère pour moi. Il m'a d'une extraordinaire élégance. C'est une chose qui a toujours existé en France. Très très bons éditeurs. Au 19e siècle, vous aviez les meilleurs éditeurs du monde. Et au 20e siècle, j'ai pas connu le monsieur des éditions de minuit, mais je suis sûr que c'est un grand éditeur. Un grand éditeur. Il y a Julliard, Gallimard, c'est de grands éditeurs. Sans doute. Ça, c'est plus rare qu'un bon écrivain. C'est vrai. Et le public ne se rend pas compte de l'importance qu'un bon éditeur a dans la publication d'un livre. C'est fondamental. Je vais faire une confidence pour la première fois. Puis Christian a eu son concert qu'il a emporté.
Christian Bourgois.
Et je suis venu deux, trois fois de Lisbonne pour être avec lui. Il m'a dit une fois une phrase que j'ai beaucoup aimée. C'est une phrase d'un général vénétien du 15e siècle, le général Montecuculi. Il faut prendre l'occasion par les cheveux, mais ne pas oublier qu'elle est chauve. C'est beau, ça. Bon, et donc il m'a écrit une lettre à Dieu. Je ne vais pas la reproduire dans les choses les plus intimes, mais une phrase que je peux dire qui m'a beaucoup frappé. Tu es mon frère. Et il n'y a pas d'écrivain au monde que j'admire autant que toi. La deuxième partie est inutile. Mais pour un homme très retenu, très élégant, très discret, dire ça, ça me... J'ai pas pleuré, mais les larmes étaient toujours autour de moi en flottant. Mais quand un ami meurt, moi j'ai honte. Comprenez? J'ai honte. Je pensais, bon, je vais faire des livres pour toi. C'était idiot parce que... Je suis sûr qu'il est dit, mais... Il aura des façons de résoudre le problème. Il avait beaucoup de sens critique, lui, et moi, j'ai aucun. Et j'aime pas n'avoir aucun.
De quoi? De sens critique?
Oui, les femmes adorent ça. Je bute ton avis tout le temps, je ne sais pas quoi faire. Et ça, c'est pas mal pour nous, les hommes. Et nous avons l'air tellement sans protection, etc. Ça, si vous éveillez dans une femme le sentiment maternel, c'est gagné.
Ça dépend quelle femme? Ça dépend quelle femme?
Non, elles sont toutes faites de la même façon. Ce qui dépend, c'est la stratégie.
Et les hommes, ils sont tous faits de la même façon aussi?
Les hommes sont stupides. Et les hommes n'aiment vraiment pas. Seules les femmes aiment vraiment. Ils peuvent aimer des amis, par exemple. Mon grand-père m'aimait, je suis sûr de ça. Quand il était très malade, il m'a dit, il est mort jeune. Il m'a dit, tu sais, je vais sentir ta faute. C'est ta faute, je ne sais pas si on dit comme ta faute.
Ta faute.
C'est ton absence. Il était 13 ans, mais il avait fait la révolution monarchiste à Portugal. J'aimais beaucoup cet homme, complètement opposé au mien, ses opinions. J'avais 18 ans quand il est mort. Mais il a fait un miracle pour moi. À 7 ans, il m'a emmené en voiture, on a fait un tour en Europe, les deux. Espagne, France, Suisse, Italie, pour faire la communion, la première communion à Padoue. Il s'appelait Antonio VI, Saint Antonio. Il était portugais, enterré à Padoue. Ça, c'était le prétexte. On s'est promené par toute l'Europe, surtout les musées, qui m'ennuyaient énormément. Ce que j'aimais dans les musées, c'était pas les tableaux, c'était le crachoir. Parce qu'il était chromé, brillait, j'avais 7 ans. Je m'en fichais de ces tableaux-là.
C'est marrant parce que vous dites « Tous les hommes sont stupides et ils ne savent pas aimer ». Et moi, dans ce texte, Antonio Lobo Antunes, notamment à la fin, pour moi, c'est vraiment la manière dont un père et un fils se tuent, oui, mais s'aiment au-delà de tous les crimes et de toutes les guerres et de toute la violence. Mais ils s'aiment.
La seule façon de parler littérature, c'est de ne pas parler de ça. Ne pas faire aucune mention. J'ai découvert ça maintenant. Fini ?
Quoi fini ?
L'interview.
Non.
Je vais commencer à répondre à la rationnelle. C'est la seule façon de vivre. C'est vivre selon vos règles personnelles. J'ai toujours eu des emmerdes à cause de ça. Avec la fac, avec la direction des hôpitaux, à l'armée. Fou.
Vous ne vivez que selon vos règles personnelles.
Bien sûr. Je suis libre. Mais je l'ai payé très cher, quoi. J'ai perdu cette oreille. J'ai des cicatrices, des blessures, la guerre. C'est difficile d'être libre, mais il faut continuer, il faut se maintenir là. En disant ça, je me suis souvenu d'un passage de Jules Verne. C'est bien Jules Verne. Voyage au centre de la Terre. Quand le garçon va parler avec sa grand-mère, et le texte c'est plus ou moins comme... Est-ce que ce monsieur est fou ? Me demanda-t-elle à propos de monsieur qui allait l'emmener au centre de la Terre. Je fis oui de la tête. Et il nous emmène avec lui, même signe. Et où ? J'indiquais du doigt le centre de la Terre. Hein ? Ça, c'est un écrivain, salaud. Et on pense que c'est un auteur pour enfants. D'ailleurs, quelqu'un qui s'assoit sur les pages qu'il a écrites pour chauffer la prose après, c'est un génie, quoi. Chauffer la prose avec son...
Derrière.
Ses fesses. Oui, on peut dire fesses.
Fesses, cul, derrière.
C'est mal élevé.
Oh non, fesses, franchement, c'est très raisonnable.
J'ai beaucoup d'admiration pour Jules Verne. Il y a beaucoup d'autres écrivains. Un ami, Alberto Manguel.
Il était à votre place il y a 10 jours.
Très sympathique, hein, Albert. Non ?
Ah, très sympathique.
Les Argentins. Il avait la direction du congrès de Jules Verne. Jules Verne, toutes les années dans sa ville. C'est à propos de ça qu'il est venu.
Il est venu pour parler de son dernier livre, mais on a fait comme avec vous, on a parlé un peu de tout.
J'aime bien cet homme. J'aime bien cet homme. Mais Jules Verne... Vous savez, parfois on passe à côté des gens sans les remarquer. Comme on passe à côté de certains écrivains sans les lire. Et c'est dommage. J'ai appris tellement de choses avec Jules Verne. C'est curieux, il est très apprécié en Amérique latine. Par les écrivains comme Cortázar, on peut dire à la française. Les gens, de façon générale, aiment beaucoup Jules Verne. Je pensais que c'était mort, car c'est quelqu'un qu'on me donnait à lire quand j'avais 12 ans. Très bon. Très, très bon.
Et les femmes, alors, vous n'avez pas lu beaucoup de femmes ?
Femmes qui écrivent. Mmh. Et des femmes que je joue au foot, vous connaissez ?
Ouais. Super joueuse. Super joueuse. Très bonne joueuse.
Je ne me sens pas en position de parler de ça. Par exemple, je me souviens, j'ai un ami, Steiner, George Steiner, qui vit à Cambridge maintenant. Et J'étais chez lui, très agréable, et tellement sympathique, avec beaucoup d'humour. Et on parlait littérature. Et il m'a dit, dis-moi des femmes qui écrivent bien, qui soient de grands écrivains. Et mes livres ont... J'ai dit, il était furieux. C'est rien ça, il y a une explication, à en finir. Enfin, beaucoup. Je parlais de... Ah, il y a une femme que j'aime bien. Mais comme Prel disait de Barbara, il disait que Barbara c'est un mec, c'est Colette. C'est très très beau. Très très beau. Il y en a encore. Je cherchais des Françaises. Oh. J'aime Madame Lafayette. Hélas, ce n'est pas la même opinion que votre génial président de la République. Mais donc, il doit avoir raison. Il y en a, mais c'est plus difficile. Tout était fait pour empêcher les femmes d'écrire. Comme tout était fait pour faire... Par exemple, au Portugal, pendant la dictature, un homme fait battre sa femme. Sa femme ne fait pas battre son mari. Ce qui est idiot, les hommes ne savent pas combien il est bon d'être battu par une femme. Baudelaire le savait. Ça, je plaisante, on ne m'a pas battu, j'attends encore, impatiemment. Mais tout a été fait contre les femmes. Ce qui est naturel, les hommes ont tellement peur de la femme. Avant d'être faire la psychiatrie, je l'ignorais, mais la peur des hommes, par exemple, dans les consultes d'impuissance masculine, il y avait une telle peur. Et je me souviens d'un patient à l'hôpital qui était un ouvrier. Hein. Non, docteur, jamais j'irai au lit avec une femme. Mais pourquoi? Parce qu'elle nous vole. Comment ça? J'entre comme ça, je sors comme ça. Où elle reste?
Il avait peur d'être volé.
Non, la grande peur inconsciente ou préconsciente des hommes est toujours la même. Les questions sur les mesures et les dimensions de l'organe génital sont... Parce que c'est très difficile de faire comprendre que le plaisir n'a aucune chose à voir avec les dimensions. Donc, mais c'est vrai, le monde est fait comme ça.
Le monde est fait quoi? Le monde est fait contre les femmes?
Si, il est fait par les hommes. Et en général, il est fait par les hommes. Même quand il est fait par les femmes, c'est la même chose. La compétition entre les femmes est beaucoup plus dure que la compétition entre hommes. Nous, les hommes, on ne sait pas ça. Parfois, on oublie ça. Nous, entre hommes, n'avons pas d'amitié assassine. Mais vous avez beaucoup d'amitié assassine. C'est très difficile d'être vivant. Qui ne vit pas meurt, mais vous entrez dans n'importe où et la plupart des gens sont morts derrière les yeux. Quand vous les regardez, vous vous rendez compte. Vous entrez dans un endroit quelconque, ils sont tous morts parfois. C'est Garcia Lorca. Garcia, il ne faut pas prononcer le nom à la française. Garcia Lorca. C'est Garcia Lorca qui disait, il y avait beaucoup d'esplanades à Madrid, qui étaient pleines d'hommes assassinés. Et c'est vrai, la vie tue tellement les gens, elle est tellement cruelle. Et elle aime nous faire mal, elle aime nous tuer. Il faut la soumettre comme Baudelaire. Soumissait sa négresse. En la battant. Je plaisante. Peut-être que ce n'est pas une mauvaise méthode.
De soumettre la vie?
Oui. Quand une personne a beaucoup de problèmes de sécurité, plus grand est son désir de dominer. Bon, je suis venu ici pour des livres, on parle livres, c'est tout, et on est près de la fin, j'espère.
Vous voulez que je demande si on est près de la fin ? On est peut-être près de la fin. On est près de la fin. Si vous voulez, on peut même se dire au revoir.
À la fin. Mm-hmm. Vous avez eu le dernier mot, vous avez gagné.
Non, c'est vous qui l'avez eu. Merci beaucoup, Antonio Lobo Antunes. Jusqu'à ce que les pierres deviennent plus douces que l'eau, c'est le titre de votre livre qui paraît en français dans une traduction de Dominique Nédélec aux éditions Christian Bourgois. Vous pouvez retrouver Antonio Lobo Antunes jeudi prochain au micro d'Olivia Gesbert dans la Grande Table. Au son ce soir, c'était Éric Boisset. À la réalisation, Charlotte Roux. Vous pouvez aussi réécouter cette émission sur franceculture.fr ou en vous abonnant au podcast de Par les temps qui courent. Un très grand merci à Romain Debec de Lièvre, à Jeanne Aléos, Lou Quevauvillier et Marianne Chassor qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les jours. Dans un instant, le journal. Très belle soirée à vous sur France Culture.